Bienvenue à tous. Les livres et les hommes. Aujourd'hui, Cris d'ici et d'ailleurs avec Alidi Alaoui. Alidi est un poète de l'errance, de la bohème, errance géographique, mais aussi errance dans le temps, de la République moderne et européenne au sultan oriental, et plus loin encore, jusqu'aux reines des Béja et des Fani, qui sont les premiers pouvoirs organisés aux Comores. C'est peut-être là un désir de juriste, une nostalgie de poète, qui tente à trouver dans le passé de réponses aux problèmes du présent. Alidi, bonjour. Vous avez essayé dans ce premier ouvrage, si je ne me trompe pas, de parler du monde social dans un langage qui n'en parle pas, c'est-à-dire qui essaie de parler du monde social, des problèmes de gens, de la vie, de la société, tout en parlant avec une forme de dénégation, si j'ose dire. Est-ce que c'est un acte délibéré ou parce que vous avez jugé utile que la poésie est la forme d'écriture la plus efficace quand on veut parler du monde social, surtout au problème du monde social?
Effectivement, la question peut être posée parce que il y a d'autres formes d'écriture. Maintenant, pourquoi j'ai opté pour la poésie et non pas, par exemple, pour un roman ou un essai ou autre chose? C'est en même temps une question très difficile à répondre. Il y a certainement plusieurs influences qui justifient ce choix.
Quelles sont alors ces genres d'influences?
Il y a d'abord le fait que je suis issu quand même d'une famille où il y a eu des poètes.
Des poètes, oui, des gens qui pratiquaient cette forme
j'entends
d'écriture.
J'entends par là, je suis le petit, l'arrière-petit-fils d'un poète, même si à l'époque, on ne le voyait pas comme ça, puisque dans le cadre de la confrérie Chadouli, qui est la confrérie dominante dans notre pays. Mon arrière-grand-père a beaucoup écrit des chants, des poèmes qu'on continue à lire sans qu'on sache exactement qui les a écrits. Donc, moi, j'ai découvert ça après et j'ai essayé déjà d'expliquer pourquoi je me suis intéressé à la poésie. Je me suis dit, c'est peut-être déjà quelque chose d'inné.
Ou quelque chose que vous avez hérité de votre,
grand-père. Ça peut s'expliquer. Je pense que je suis né avec le sang poétique dans mes veines. Et donc, ce qui me manquait, c'était de pouvoir extérioriser ce sang-là pour pouvoir le faire montrer aux autres. Donc, il y a cette influence qui date d'un siècle. Ensuite, il y a une autre influence qui est récente, puisqu'elle date d'à peu près 20 ans. Mon oncle Luterin a publié un recueil qui s'appelle « Miroir des abîmes ». Ça, c'était les années 80. Je me demande même si ce n'est pas le premier Comorien à avoir publié en français, je vais dire, un recueil poétique. Donc, je pense que j'ai déjà cette sorte d'héritage qui fait que, le choix s'explique. Mais cela n'allait pas suffire, en vérité.
Donc, il fallait aussi une influence d'un de vos maîtres.
Voilà, cela n'allait pas... Voilà, exactement, parce que ça n'allait pas suffire. La preuve en est que, dans ma famille, il n'y a pas tout le monde qui est poète. Mais il y a eu aussi le hasard qui a fait que, quand j'étais élève au lycée, et plus précisément au lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moromi, j'ai eu, je ne dirais pas l'occasion parce que ça serait plus simple et facile. Je pense que j'ai eu le privilège de rencontrer un grand homme de lettres de notre pays, qui n'est autre que le professeur Aboubakar Saïd Salim. Et ça a été mon prof de français, et je dirais plutôt de littérature, puisque là c'était la littérature française et la littérature négro-africaine. Je l'ai eu en seconde, je l'ai aussi eu en partie en première. Et je crois que sa façon de nous inculquer les connaissances a eu certainement une influence sur moi. Et comme c'était un homme qui aimait beaucoup la poésie, à mon avis, cela a aussi joué un rôle. Que j'opte
pour la poésie, pour tout la à poésie. Fait. Vu cet angle-là, il y a l'influence parentale ou l'héritage familial. Parce que vous êtes né dans une famille de lettres, dont les parents, les grands-parents faisaient de la poésie, ce que vous venez de dire.
Effectivement, et cela ne suffit pas parce que j'ai aussi autour de moi beaucoup de professeurs de français. Mes parents, mais j'ai déjà... mon père est instituteur, là il est retraité. Ma mère était institutrice et après il a fait toute une ascension qui fait qu'aujourd'hui elle est professeure de français à l'IFERE, à l'Université des Comores. Donc il y a déjà cette influence. J'ai été quand même élevé au milieu de gens qui déjà s'intéressaient à la lettre, au verbe. Et je pense que tout ça s'explique. Mais le fait d'avoir choisi, à mon avis, la poésie, c'est dû au fait qu'il y a eu cette influence aussi héritière, si vous voulez, et le fait d'avoir rencontré Aboubakar Saïd Salim. Je pense que ça a joué un rôle très important.
Tout à fait.
Et je lui exprime d'ailleurs ici ma profonde reconnaissance.
Tout à fait. Alors, moi, c'est que je voudrais savoir, parce que vous avez choisi cette forme d'écriture poétique qui s'adresse à l'intime, à l'individu, beaucoup plus qu'au collectif, même si quand on récite, quand le récitant de la poésie le récite en situation publique, mais en parcourant les différents poèmes que vous avez consacrés sur ce livre, vous avez consacré beaucoup plus votre discours sur l'individu, sur l'intimité. Quand on regarde bien, on regarde par exemple le premier poème, c'est issu de la mélancolie. La mélancolie, et vous finissez votre ouvrage par la prière. La mélancolie, ce sont des sentiments intimes qui concernent, qui touchent beaucoup plus l'individu que le groupe, la société, le collectif. Et la prière, c'est aussi une pratique sociale individuelle qui s'adresse aussi à l'individu. Pourquoi ? Alors, commencez par adresser votre poésie à l'intimité pour parler de ce qui est hors de l'intimité, parler du monde social, de l'ordre du public. Est-ce que parce que vous jugez-t-il que pour résoudre peut-être le problème qui affecte la vie sociale, il faut commencer par adresser d'abord le message à l'individu?
Je pense profondément que pour pouvoir connaître l'autre ou autrui, il faut d'abord se connaître. Donc, en vérité, dans cette poésie, effectivement, je m'adresse aux autres. C'est un livre qui parle à celui qui le lit. Il suffit de bien analyser le contenu dans tous les sens pour s'en apercevoir. Mais comme je le dis souvent, je ne peux pas vraiment me mettre à ma fenêtre et me voir passer. Donc je ne peux pas vraiment dire beaucoup de choses de ce recueil. Mais il y a cette idée selon laquelle, avant de connaître l'autre, ou avant que j'arrive à transmettre, il faut que j'arrive à me le transmettre moi-même. Donc, dans un premier temps, ce recueil, je me le suis destiné. J'ai cherché à me comprendre. Je me suis dit, si effectivement je parle de sujets très très forts dans ce livre, pour que je sois sûr que les autres vont les réceptionner, il faut que je fasse l'expérience sur moi-même. Et ensuite, je me suis dit, une fois que j'ai fait cette expérience sur moi-même, avant tout, ce recueil, en fait, va être lu par des individus et non pas par une communauté. La communauté viendra après.
Oui, même s'il y a des formes de lecture publique.
Voilà,
mais chez nous, peut-être
un jour, c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Un jour, peut-être des enseignants vont prendre mon recueil, ils vont le lire à leurs élèves. Donc, ça sera effectivement une lecture collective. Mais dans un premier temps, pour moi, ce livre parle à celui qui le lit.
Lecteur, en quelque sorte.
Voilà, donc le lecteur, c'est avant tout un individu.
Eh bien, on poursuivra après avoir écouté ça.
Ouais.
If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Remembering your touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your heart. Touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. To see your face, your smile, to be with you.
Mélancolie, je scrute la lune des îles jusqu'à l'horizon de Rouen. Mon océan qui chante, j'écoute religieusement, chantant éternellement, le vent du soir aussi. Ce silence morbide m'étouffe, un jet d'eau arrose ma mère. Pour tuer ma vie à Rouen, je marche péniblement. Que puis-je faire d'autre?
Espérer,
il paraît.
Haldi Alaoui, parmi la force de la poésie, il y a aussi la force de la magie. Mais toujours cette force magique trouve sa force du fait que la poésie s'adresse toujours à l'intime, à l'intimité pour parler de l'extrémité. Est-ce qu'on peut dire que vous avez choisi cette forme d'écriture tout simplement parce que la connaissance du monde social commence par la connaissance du monde à soi, comme disait Jean-Jacques Rousseau?
Oui, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, que bon, avant de connaître les autres, j'ai cherché à me connaître en profondeur. Mais je peux aussi rajouter ceci. Pour moi, la poésie, c'est quoi? C'est pour ça que peut-être aussi je l'ai adoptée. La poésie pour moi, c'est une expression profonde du cœur et de l'esprit. Il y a ce mélange du cœur et de l'esprit qui fait qu'on arrive à expulser la poésie. Donc, qu'il soit ordonné ou intuitif, ce qui importe pour moi dans cette affaire, dans la poésie, c'est l'émotion qu'il dégage. Et effectivement, quand on se réfère à mon poème Mélancolie, quand je vous entends le lire, je me dis, tiens, c'est effectivement, ce poème dégage une certaine force et ça confirme un peu ma vision de la poésie. Donc, c'est mon cœur et mon esprit qui se sont exprimés. Et comme a dit un grand écrivain aussi, Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.
Tout à fait. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Mais peut-être la raison, on peut essayer de connaître. C'est ce dont je vais essayer de vous amener à parler. Parce que le titre déjà, cri d'ici et d'ailleurs. Est-ce que c'est pas cette force-là que vous voulez amener à parler du monde à soi, de votre monde à soi, pour parler des mondes des autres, en commençant par l'expression du cri, par exemple, en parlant par, voilà, le titre, c'est cri d'ici et d'ailleurs. Alors, mais il y a le ici et ailleurs. Est-ce que là, quels sont les mondes ou les choses dont vous parlez pour signifier cela, ici et ailleurs? Ce cri commence par où et finit par où?
Alors, le cri, si je comprends bien votre question, vous voulez savoir pourquoi le titre de mon recueil, voilà, est cri d'ici et d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait.
Effectivement, là, il y a cri d'ici et d'ailleurs. Je commencerai par le premier mot. Cri. Pourquoi cri? Parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est mon cœur et mon esprit qui s'expriment. Et il fallait bien qu'il y ait une certaine force. Et mon tempérament explique un peu ce titre déjà. Parce que de nature, je crie. Et pour dire des choses très profondes, je pense que des fois, il faut crier. Le cri peut certes être silencieux, mais le plus souvent, le cri résonne. Et d'où ce titre-là. Quand on lit ce poème, ce recueil, pardon, je pense que du début à la fin, il n'y a que des cris. Ce ne sont pas des cris uniformes, des cris mélancoliques, des cris de joie, des cris de tristesse.
De révolte.
Des cris de révolte. Donc, pour moi, c'est ça l'explication. Pourquoi le mot « cri » ici ailleurs, c'est une façon pour moi de montrer que ce recueil n'est pas destiné à une catégorie bien précise. Quand on parle de problèmes forts et sensibles et profonds, j'insiste beaucoup sur le mot profond, à chaque fois je le cite, mais c'est fait exprès. Ce cri ne peut pas se limiter à un pays et ou à un groupe bien précis. C'est pour ça que pour moi, ce sont des cris qu'on peut les retrouver ici parce qu'on est là et ailleurs. Si un jour on va là-bas. Mon recueil, en vérité, c'est une sorte de dialogue entre le recueil et peut-être moi-même
et
le lecteur. Voilà, c'est ça.
Qui va lire ce recueil ou qui lit ce recueil.
Donc, pour qu'on puisse, si vous me permettez, pour qu'on puisse vraiment saisir ces cris, il ne faut pas massacrer ce poème. Il ne faut pas les dévorer, ces poèmes. Il faut les déguster. C'est-à-dire, il faut prendre son temps. La personne qui va me dire, j'ai lu votre poésie en une demi-heure, je vais me poser une question, je vais me dire, est-ce qu'il a vraiment compris ce que j'ai voulu exprimer à travers ces cris? Pour moi, il faut vraiment profiter, s'il le faut, lire à haute voix les poèmes, les relire, les tourner dans tous les sens. Et à partir de là, on pourra peut-être comprendre ce que je cherche à expliquer. Tout en sachant qu'en vérité, même moi, il y a des choses que je n'arrive pas à maîtriser. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas me mettre à ma fenêtre et me voir passer. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ce sont les lecteurs, ce sont les critiques qui vont pouvoir m'apprendre ce que j'ai voulu réellement dire dans cette poésie. Cette œuvre ne m'appartient plus. Dès l'instant qu'elle est publiée, je ne suis plus le maître.
Oui.
Donc, ce qui fait que, bon, maintenant, c'est aux gens et aux lecteurs en particulier de me dire, voilà ce que nous pensons de votre recueil, de vous, des sujets que vous abordez.
Oui, mais au-delà du langage, du discours poétique, sentimental, il y a aussi un discours peut-être qui n'est pas du tout caché, il est complètement visible, qui est un discours par la poésie politique. Vous parlez par exemple dans le poème « Comorianité ». Est-ce que ce cri dont vous venez de parler, ce cri qui parle du malaise profond, du malaise social, et qui s'adresse à l'individu, seul lecteur qui lit ce recueil, est-ce que aussi cette poésie, cette forme d'écriture, qui naturellement n'est pas du tout agressive, mais douce, tendre, la poésie c'est des sentiments, est-ce qu'il y a aussi une force agressive qui s'adresse aussi en direction de ceux qui, en quelque sorte, refusent leur identité propre?
Oui, effectivement, il y a dans ma poésie, certainement, il y a cet esprit de militantisme. Ce qui est normal parce que je suis un homme engagé. Donc, il va de soi que dans cette poésie, qui va peut-être permettre aux gens aussi de savoir qui je suis, qu'on retrouve cet esprit de militantisme. De toute façon, autre chose, tout ce qu'on fait, qu'on le veuille ou pas, il y a un peu de politique. Effectivement, il y a une recherche de soi dans ma poésie. Quand je parle de comorianité, quand je fais cette prière, vous avez parlé tout à l'heure de la prière. Pourquoi j'ai commencé par de la mélancolie et j'ai fini par une prière. Donc, quand j'essaie de comprendre, je me dis, mais finalement, je prie pourquoi ? C'est aussi intime, certes. Est-ce que je prie pour retrouver cette mélancolie ou je prie pour autre chose ? Ça, c'est la question aussi à laquelle je cherche la réponse. Et ce sont les lecteurs qui peuvent m'aider à la retrouver, cette réponse. Et effectivement, il y a cet esprit
de militantisme.
Du discours politique. Ça, c'est sûr. Et il est fort. C'est un cri. Et quand je parle de... Parce que le militant, généralement, il n'est pas doux. Quand on pense à un peuple qui souffre, je pense particulièrement à mon pays, les Comores, mon pays, ma patrie. Ce pays auquel je suis tant attaché, ce pays qui m'a tout donné. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce pays. C'est grâce à ce pays. Ce pays m'a formé, ce pays m'a mis au monde. Ce pays m'a permis de jouer au foot dans sa poussière. Hein? Ce pays m'a, malgré la pauvreté, c'est ce pays qui m'a formé. Moi, j'ai bénéficié de rien. Par exemple, je n'ai même pas fait une école privée aux Comores. C'est l'école publique qui m'a formé. Donc, j'ai une dette.
Envers cette école.
Une dette morale envers mon pays. D'accord. Donc, c'est peut-être aussi une façon pour moi de commencer à rembourser cette dette-là.
Cris de détresse. Des tonneaux vides résonnent d'habitude. Comme une île frétille sollicite l'inquiétude. Mon esprit en ébullition avec mon sang, comme en jouant avec ses enfants. Pour communiquer avec ton cœur, des tartuffes te détruisent en douceur, comme ces arbres allongés sur tes routes, et tous ces rivières en déroute. Je défends avec fugue ma comorianité, comme tout enjoigné pour l'éternité. Les compagnards et les citadins t'humilient, car ils oublient les ciments qui nous lient. Tu saignes sans cesse à cause d'eux. Point d'enjouané qui se renie, point d'enjouané indigne.
Et finalement, il y a ce rapport intime entre la conciliation du fait d'être comorien et d'être enjoané. Et ce poème s'adresse en quelque sorte à ceux qui, pour être plus comorien, ils sont plus enjoanés. Et finalement, vous dites très bien que vous êtes fier de cette comorianité, que vous ne pouvez pas être enjoané sans pour autant être comme rien.
Là, je vais quitter un peu la poésie et vous donner mon point de vue, parce que là, ça touche un peu une situation très grave hein, qui est en train de détruire notre pays actuellement. Donc, c'est cette idée de séparatisme. Ça, c'est un poème que j'ai écrit en 97.
Date à laquelle le séparatisme voilà. a
Donc,
été
Donc, je l'ai
déclenché.
Écrit. C'était publié dans le journal de Fraternité Anjouanaise, qui est devenu après Fraternité Comorienne. Et c'était Massiwa, je crois, si je ne me trompe pas. Effectivement, là, je suis très attaché à ma comorianité. Je veux dire, là, je m'adresse effectivement aux gens. Je dis, moi, personnellement, je ne crois pas à ce concept d'enjoiné. Je dis toujours, je suis un comorien de Wani. Je ne crois pas un seul instant à cette idée, à cet idéal d'enjoiné. Hein? Pour moi, l'enjoiné n'existe pas. Ça, c'est un autre sujet. Donc, peut-être que ça se ressent dans cette poésie. Pour moi, ce n'est pas l'enjoiné. C'est pas un enjoin qui détruit ce pays. C'est des individus. Voilà, c'est peut-être pour ça que, sans que je me rende compte, je dis c'est le citadin et le campagnard au lieu. Il y a peut-être cet affrontement qu'on retrouve dans cette poésie entre les citadins et les campagnards d'une part et les enjoinés d'une autre part. Donc voilà à peu près l'explication. Effectivement, moi je suis comorien, je suis fier de l'être. Je suis né aux Comores. Tout ce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, tout ce que j'ai aujourd'hui, ce sont les Comores qui m'ont... J'ai grandi à... Vous savez, je suis né à Wani en juin, mais j'ai passé toute mon enfance à Moroni. Je m'adresse particulièrement là aux Comoriens qui vont
tout à fait.
Me comprendre. Mais ensuite, j'ai grandi dans un quartier de Moroni qui s'appelle Coulé de Lave.
Un quartier populaire.
Moi, dans ce quartier... J'avais pas la notion insulaire. L'idée d'insularité n'existait pas. C'était on est comorien, on est venu. Donc pour moi, effectivement, là, je reconnais que c'est un poème très militant
et
qui montre un peu.
Votre expérience personnelle et vos rapports
ma position
à la société,
depuis,
à l'identité
97,
comorienne.
Effectivement, moi, c'est les Comores. Et si un jour on me dit. Alors, si les Comores n'existent plus, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, je vais dire, s'il en reste un peu, je serai juste Wanien. Mais je ne serai pas en Joanie. Je ne peux pas. Ça, c'est une réalité. Je connais ce concept-là. Pour moi, il n'existe pas. C'est de l'hypocrisie. Et cette hypocrisie est en train de détruire tout un pays. Et surtout en juin. Parce qu'en vérité, depuis le début de cette crise, qu'est-ce qu'on assiste ? C'est un désordre et le grand perdant en vérité, c'est l'île d'Anjouan. C'est pas les autres îles. Ça et les gens qui nous ont menés, qui nous ont mis dans cette situation, en sont bien conscients. Mais en vérité, ils pensent qu'à leurs intérêts personnels, c'est tout.
Tout à fait. Eh bien, ne bougez pas, Ali Dialaoui. On continue cette émission après avoir écouté Aza.
Why did you?
Halidi Alaoui, dans votre livre, il s'agit bien évidemment, répétons-le, d'un recueil de poésie qui parle des langages intimes, sentimental, qui s'adresse beaucoup plus au monde, à soi, à l'individu, qu'à l'extrémité, hein, qu'au public. Et là aussi, c'est à travers une expérience personnelle que vous avez pu dégager ce dont vous avez parlé. Et là, dans le poème, par exemple, Nostalgie, il s'agit d'un autre monde. C'est notre monde dans lequel vous vivez. Peut-être que vous avez fini ou poursuivi votre formation. Je vais dire que ce que c'est pas là où se situe vraiment le sens du titre « Cri d'ici et d'ailleurs ». C'est pas un individu, un poète qui raconte sa situation déchirement, sa situation déchirement parce que ayant vécu ou vivant dans une société d'immigration, essaie de rappeler à ceux qui le lisent sa souffrance intime, à la fois une souffrance du fait qu'il est loin de son pays, ce pays qui l'a formé, ce pays qui l'a nourri, ce pays qui l'a apprécié, le goût culinaire ou les goûts de la sociabilité entre les individus, même si ce pays est aujourd'hui en déroute parce qu'il est éclaté. Mais est-ce que c'est pas cela ce dont vous voulez parler, la nostalgie aussi, mais en même temps, la vie d'immigré, la vie difficile d'un immigré quand il est dans une société loin du sien, loin de sa famille, loin aussi des choses qu'il a vues dans son pays d'origine.
Effectivement, dans ce poème, il y a un cri nostalgique, mais on ne peut pas dire que c'est ce qui m'a amené à donner ce titre. Pour moi, c'est un tout. C'est tous les poèmes qui sont là, qui ont dégagé le titre. Donc, comme je l'ai précisé, le cri ne peut pas être unique ou uniforme. Hein. C'est un cri diversifié qui ne se limite pas qu'aux Comores. Il faut bien le préciser que dans cette poésie, il y a beaucoup de poèmes qui n'ont rien à voir aussi avec les Comores, même si peut-être en creusant, on va toujours faire un lien. Mais moi, j'ai écrit, j'ai essayé d'extérioriser mes sentiments. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce que le lecteur ressent et non pas ce qu'il pense. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il ressent. Voilà, donc il y a effectivement une partie de... Il y a effectivement un cri nostalgique, hein. Ça existe comme... Il y a le cri de révolte, il y a le cri d'amour, il y a le cri patriotique, il y a le cri exotique, hein. Il y a un peu de tout. Donc, c'est tous ces cris-là.
Oui, ces cris-là existent, par exemple, là, sur ce même poème.
Nostalgie. Sur un balcon, très loin là-bas, point de minaret. Même pas de cocotier en est témoin. Un ciel laiteux et pollué, différent du tien. Lequel est toujours azur, rayonné par une lune splendide. Et dont des étoiles infinies accentuent le charme. L'individualisme ronge mon âme. Point de véranda pour le compte. Même pas de boutre pour nos aïeux. Trop de bruit de train dans les rêves. Des arbres pleins de feuilles vertes font l'école buissonnière. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps n'égalent pas de
cacanzi et cousi
tout le matin. Le soleil n'offre pas de câlin si le mouhundi y était. On se croirait à
Al-Fajr.
Les oreilles réclament insensément les vagues nocturnes de ton océan.
Là, quand même, cette nostalgie, ce manque profond, qui a constitué le patrimoine intérieur de ta personnalité et qui te manque dans une société où il n'y a pas de minarets, il n'y a pas des cocotiers, tous les symboles de la transmission des savoirs. Le minaret, ça symbolise cette école, qui est la mosquée, qui transmet une forme de savoir. Je veux dire, la vie d'un immigré, c'est une vie mutilée, difficile vraiment à gérer.
Eh bien, il va de soi que quand on est immigré, on est nostalgique, on est mélancolique, on est tout. Hein. L'immigré, c'est quelqu'un qui supporte tout, que ce soit ce qui est supportable, mais aussi ce qui est insupportable.
Mélancolie, je scrute la lune des îles jusqu'à l'horizon de Rouen. Mon océan qui chante, j'écoute religieusement, chantant éternellement, le vent du soir aussi. Ce silence morbide m'étouffe, un jet d'eau arrose ma mère pour tuer ma vie à Rouen. Je marche péniblement. Que puis-je faire d'autre ?
Espérer, il paraît.
Avec une éternelle impatience, je ressens la souffrance. Je me trouve à côté du téléphone, j'escompte les sonneries joyeuses qui vont m'annoncer ta renaissance. Depuis que tu es parti, je bois du noir, sente sur mes joues. Des larmes de sang m'arrosent, me consolent vainement. J'attends qu'après le chanter, mais je ne l'écoute point. Seul les cris funestes du téléphone d'antan me tourmentent. S'il vous plaît, vous me torturez. 1985 est ancré dans ma mémoire, il refuse de me répondre et garde ses cris sinistres. Est-ce possible que jamais plus, quand je tourne la tête, je vois ton visage. Quand le téléphone sonne, je sens que tu frissonnes. En le décrochant, j'attends ta voix. Or, penser à ta voix me fait souffrir.
Alidi Alaoui, c'est quand même très profond. Je dirais, avec ce langage qui exprime déjà ce message que vous avez dit, messager du malheur, c'est quand même aussi porte et message du bonheur, parce que dans ce poème, il y a quand même l'expression à la fois d'un souvenir profond et fidèle à ce que tu penses, mais en même temps aussi un esprit aussi d'absence dans une terre de présence. Est-ce que c'est cela, bien évidemment, ce qui caractérise aujourd'hui l'immigré, c'est d'être absent dans une terre de présence? Est-ce que quand un immigré manque quelque chose, est-ce que ça constitue déjà un danger, une menace durant toute sa vie migratoire?
L'immigré, pour moi, il s'adapte à tout. C'est lui qui se soucie de tout ce qu'il a ici, de tous les problèmes qu'il a ici et de tous les problèmes qui sont là-bas. Donc pour moi, immigré souffre, mais il a le mérite d'être fort. Moi, en vous entendant lire ce poème, je dis juste parce que c'est ce mot sur lequel j'insiste depuis le début de l'émission. C'est le mot profond, je vous ai entendu le dire. Mais en lisant tous ces poèmes, on trouvera toujours un sens profond ou une explication profonde. Donc voilà, c'est aussi un cri...
Un cri d'amour, un cri d'espoir, d'espérance.
Ce qui est sûr, c'est des cris mélangés. Maintenant, comme je t'ai dit, très honnêtement, j'ai essayé d'exprimer, même des fois, sans me rendre compte, parce que encore une fois, c'est mon cœur et mon esprit qui sont mariés pour mettre au monde ce recueil. Mais il y a des cris, dans quel sens, je n'en sais rien. Pourquoi ces cris-là et non pas d'autres? C'est la question que je me pose aujourd'hui. J'espère que d'ici quelques années, j'aurai une réponse claire et précise.
Tout à fait. Eh bien, on finira cette émission avec ce cri, ce poème d'espoir qui s'intitule déjà « Espoir ».
entre les jambes de la grande demoiselle de Paris, des prières jaillissent pour guérir tes maux, toi croissant blême. Les lèvres se concurrencent, les bédias organisent l'incoma, une dame arpente le jacquier, des mains caressent notre terre, des brouhahas réveillent Cheikh Swali, à la recherche de la lueur noire, des astres éclipsés. C'était Les Livres et les Hommes avec Ali Dialaoui, Cris d'ici et d'ailleurs. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Mais moi, je remercie aussi infiniment les responsables de Dunia Web qui m'ont permis de parler de ce recueil. Et je profite aussi pour remercier les auditeurs qui nous ont consacré leur temps, parce que sans eux, on n'allait pas faire cette émission.
Et j'en prends à l'occasion justement de le rappeler à vous, auditeurs, ce recueil, ce livre, vous pouvez vous le procurer aux éditions Comédite, parce que Cris d'ici et d'ailleurs de Ali Dialaoui est publié aux éditions Comédite.
On peut aussi avoir ce recueil en me contactant directement ou en,
sur votre blog.
Un message sur mon blog.
Ali Dialaoui, que vous animez aussi un blog très voilà. Intéressant et riche en informations.
Oui, c'est ce qu'on me dit.
Merci.
Je fais de mon mieux.
Merci, Ali Dialaoui. Votre message est passé. Et les auditeurs, n'oublieront pas quand même de passer voir votre blog. Merci. On finit cette émission en écoutant Owaïda.
Come on, honey, I'll be my sweetheart.
C'était l'émission Les livres et les hommes avec Sally Jamal, avec comme invité Alidi Alaoui pour son livre Les clés d'ici et d'ailleurs, sorti dans l'édition Comédie. On vous invite d'aller sur Dunia Web pour avoir plus d'informations sur le site de l'écrivain. Donc, toutes les infos seront indiquées sur notre page du rubrique Les livres et les hommes. Vous nous retrouverez la semaine prochaine avec un nouveau invité, une nouvelle émission.